Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le Vatican réaffirme ne pas avoir fait obstacle aux enquêtes judiciaires dans les affaires d'abus sexuels sur mineurs. Une audition par le Comité pour les droits de l'enfant de l'ONU avait lieu ce jeudi à Genève. La guerre en Centrafrique n'est pas un conflit interreligieux, c'est ce que rappelle l'archevêque de Bangui. Monseigneur Dieudonné Nzapalinga était de passage à Rome, nous l'avons rencontré. Et puis la Commission théologique internationale publie un nouveau document qui clarifie les liens entre les monothéismes et la violence, la force de la paix et la mission de l'Église. Nous entendrons le théologien qui a coordonné ce travail. Soyez les bienvenus dans ce magazine. À l'occasion de sa 65e session de travail, le comité de l'ONU pour les droits des enfants à Genève a étudié et réagi au rapport de plusieurs États ayant ratifié la Convention pour les droits de l'enfant. Ce n'est pas un tribunal, mais la procédure habituelle, a expliqué l'observateur permanent du Saint-Siège auprès des organisations onusiennes de Genève, Monseigneur Silvano Tomasi, qui s'exprimait lui aussi ce jeudi matin. Car outre les rapports de la Russie, du Portugal, du Congo et du Yémen, figurait aussi celui du Saint-Siège, Marie Duhamel.
La protection de l'enfant est et demeure d'importance majeure. Les enfants sont un trésor précieux pour chaque génération. Et ce jeudi, le Saint-Siège s'engage à nouveau à les défendre, car dans le monde, rapporte Mgr Tomasi, 150 millions de fillettes, 73 millions de garçons mineurs sont victimes de violences sexuelles. Il n'y a aucune excuse pour toutes ces formes de violence ou d'exploitation des enfants. Et presque aussitôt, ce jeudi, le diplomate du Saint-Siège a regretté profondément, ce sont ces mots, que des membres du clergé censés être au service soient impliqués dans ces crimes, compromettant un rapport de confiance et soulevant des critiques. Monseigneur Tomasi.
Les critiques sont faciles à faire, parfois elles ont des fondements réels. N'importe quel crime est un mal, mais quand des enfants sont impliqués, c'est plus grave encore. Cependant, l'accusation selon laquelle le Saint-Siège aurait fait obstacle à la justice me semble peu réaliste. Empêcher le cours de la justice dans n'importe quel pays serait une interférence indue et injuste de la part de n'importe quel sujet. Le Saint-Siège défend le droit et le devoir pour chaque État de poursuivre tout crime commis contre des mineurs.
Et pour répondre aux crimes d'ordre sexuel, le Saint-Siège, qui fut un des premiers États à ratifier la Convention onusienne, a adopté une législation pour l'État de la Cité du Vatican afin de se rendre conforme à ses obligations internationales. Le Saint-Siège a donné des cadres pour faciliter le travail aux conférences épiscopales à travers le monde afin qu'elles sachent comment traiter le cas de prêtres pédophiles, en accord donc avec les juridictions locales, mais aussi comment les prévenir. Quant aux remarques et questions formulées par le comité onusien, la Commission pour la protection des mineurs récemment mise en place par le pape François y prêtera toute son attention.
Monseigneur Dieudonné Nzapalinga, l'archevêque de Bangui, entame une tournée d'une dizaine de jours en Europe pour sensibiliser les responsables politiques à la situation en Centrafrique. Il était de passage ce jeudi à Rome, à la communauté Sant'Egidio, qui avait œuvré à la signature d'un pacte républicain au mois de septembre dernier entre toutes les parties en présence. Aujourd'hui, la Centrafrique attend l'élection d'un nouveau président de transition après la démission de Michel Diotodia. Le calme est très relatif à Bangui, mais pour Mgr Nzapalinga, il ne s'agit pas d'une guerre religieuse. L'archevêque de la capitale centrafricaine cherche à dissiper les malentendus. On l'écoute.
Il y a un calme relatif actuellement, mais nous espérons que celui ou celle qui va être élu sera un homme ou une femme qui va rassembler, permettre aux Centrafricains de se retrouver autour d'une même table, commencer à formuler des projets, aider à préparer les élections, donner la chance surtout aux gens de regagner chez eux, c'est-à-dire assurer la sécurité de la population. Et ce travail, il est important. Et ce climat, nous pouvons le faire advenir par la confiance. Et si la confiance revient entre nous, eh bien, nous pouvons l'en retisser. Actuellement, on pense que les musulmans et les chrétiens sont divisés. Mais si la confiance revient entre nous, le brassage qui a caractérisé notre pays, qu'on considérait comme un pays harmonieux, hospitalier, pourra revenir, mais ça prendra du temps. Nous sommes conscients. Et il va falloir la patience, il va falloir poser des actes, dire des paroles qui vont aider à reconstruire ces liens-là. Et je pense que c'est la mission que chaque Centrafricain doit avoir. Et aussi ceux qui viennent nous aider doivent aussi être à notre côté pour sortir de ce moment de l'impasse.
Est-ce que vous attendez un appel aussi explicite du Vatican ? Le pape a parlé de la situation en Centrafrique. Est-ce que vous attendez quelque chose de plus aujourd'hui ?
Le pape a été proche de notre situation. Ce qu'il dit est juste. C'est un pays abandonné, oublié, souvent. Et je pense que cet appel qu'il a lancé, il est temps aussi pour d'autres pays de s'intéresser. Le pape, en rencontrant ce que soient les diplomates, en rencontrant aussi d'autres prêtres, en parlant aussi à l'Église entière, c'était une manière aussi d'associer toute l'Église entière à la souffrance des membres. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Nous faisons partie du corps de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes en souffrance. C'est le Christ qui continue à s'ouvrir à travers nous. Et le pape prend à bras le corps cette question. Et je crois que nous qui faisons partie de l'Église, nous devons aussi ouvrir maintenant nos horizons. Nous disons, comment est-ce qu'on peut aider par nos structures d'Église? Il ne faudrait pas rester bras croisés et regarder ou entendre seulement au loin. Mais bouger, ça veut dire mobiliser les ressources et se demander comment on peut aider. C'est comme ça qu'on deviendra proche de l'autre. C'est comme ça qu'on va aussi alléger la souffrance. C'est comme ça qu'on va aider l'autre à se relever.
L'ambiance entre les communautés religieuses à Bangui, vous êtes vous-même responsable de l'Église catholique. Comment ça se passe avec les autres communautés?
Dès le début, nous avons pris position. Ça veut dire musulmans, protestants, catholiques, en disant « cette guerre n'est pas interreligieuse ». Et nous continuons à garder notre unité, symbole de témoignage pour les gens, et nous demandons à nos fidèles qui sont instrumentalisés, pour ne pas dire manipulés, de faire attention. Cette guerre n'est pas religieuse. Derrière ce qu'on veut nous faire croire, ce sont des visées autres que des visées religieuses. Dieu n'a jamais divisé. C'est le Satan qui divise. Et or, nous, nous croyons à ce Dieu-là. Nous devons rester fidèles à notre foi et notre foi nous pousse à ouvrir les bras pour accueillir l'autre. C'est dans la différence qu'on découvrira la vraie richesse. Ce n'est pas en nous repliant sur nous-mêmes. Souvent, les gens pensent que Centrafrique, évidemment, c'est un pays seulement des chrétiens. On doit exclure, chasser les musulmans. Je dis non. Les musulmans sont là et en étant là, ils nous expriment et ils nous révèlent notre catholicité. L'universalité se fait avec les autres, c'est pas seulement avec moi-même. Le repli sur soi a fait que nous allons plus bénéficier de la différence et je pense que c'est important et c'est ce que nous essayons de faire. Moi-même qui vous parle, dans le moment le plus difficile, j'ai invité l'imam à venir à l'archevêché. Il est resté chez nous et il va venir pour le plaidoyer avec moi à partir de l'archevêché. C'est un acte que nous avons posé pour dire aux gens il est possible de vivre ensemble. Donc, partager le repas, partager les réflexions, les visées religieuses et aussi sociales ensemble. Et je crois que plus que jamais, les fidèles aussi doivent se ressaisir pour chercher ce qui nous construit, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. Et nous ne voulons pas qu'on puisse opposer musulmans et chrétiens, chrétiens et musulmans. Nous faisons partie d'un seul peuple. C'est le destin commun qui nous unit. Et c'est ça le plus important. Et maintenant, la religion, c'est un choix particulier, privé. Nous devons respecter l'autre dans son option, mais ne prenons pas ça comme occasion pour diviser ou bien encore pour chercher de pouvoir avec.
Quel est votre message aujourd'hui à faire passer concernant la Centrafrique?
Le message que je peux lancer, c'est surtout pour les croyants, priez beaucoup pour la République centrafricaine. Rien ne remplacera la prière. Je vous invite à ce que nous prions, nous restons avec cette communion, ce lien fort où Dieu est présent et nous demandons sa grâce pour la population. Je crois que cette communion de prière va aussi aider ceux qui sont au loin à sortir de ce moment difficile, de cette épreuve-là. Et je sais que dans mon pays, beaucoup de croyants ont les yeux levés vers le Seigneur. Ceux qui comptent sur le Seigneur ne seront jamais déçus. Et nous savons que la République centrafricaine renaîtra de ses cendres.
C'était l'archevêque de Bangui, Mgr Nzapelenga, au micro de Jean-Baptiste Cocagne. La violence au nom de la religion, une question qui est souvent posée aujourd'hui et qui concentre parfois les critiques. À ce sujet, la Commission théologique internationale publie un nouveau document. Pendant 5 ans, cette commission, rassemblant des théologiens, s'est réunie pour des groupes de travail. Le nouveau texte qu'elle publie aujourd'hui s'intitule « Dieu, Trinité, unité des hommes, le monothéisme chrétien contre la violence ». Un document qui se présente comme une clarification de l'idée selon laquelle il existerait un rapport nécessaire entre le monothéisme et les guerres de religion. Dans ce document d'une centaine de pages, il y est notamment développé l'idée que Dieu dépasse la violence à travers son Fils et que la force de la paix qui vient de Dieu est la mission de l'Église. Romy de la Ferrauto a interrogé le père Philippe Valin, professeur de théologie systématique à l'Université de Strasbourg, membre de cette commission théologique internationale. C'est lui qui a dirigé la sous-commission chargée de rédiger ce document.
En fait, nous nous trouvons devant un double phénomène qui est assez nouveau, qui a suscité une sorte de polémique contre le monothéisme en général. Alors, il y a deux renouvellements. Un renouvellement de type, je dirais, plutôt populaire, et quelquefois de sous-culture, il faut bien le dire, médiatique, et le monothéisme s'est trouvé entraîné dans ce mouvement très émotif. Et puis d'autre part, un phénomène, lui, savant, où le monothéisme a paru comme peut-être une idée un peu superficielle, de classement un peu extérieur, que le monothéisme en soi serait porteur de violence entre les peuples, de guerre donc, de religion. Pourquoi ? Parce que le monothéisme ne laisserait pas place à la variété des points de vue, etc., et qu'il serait contraignant par nature, par origine, qu'un seul Dieu risque de ramener à sa puissance les consciences de la multitude. On va associer dans des formules qui ne sont pas vrais du point de vue théologique, par exemple une expression comme les trois monothéismes. Parce qu'il y a bien plus que trois monothéismes en fait.
Et justement, quand on aborde la question du lien présumé entre monothéisme et violence, il faut bien faire la distinction entre les différents monothéismes. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu, donc c'est exactement le contraire de la violence.
Alors, ça aurait été une facilité indigne, et d'abord indigne de la vérité intérieure au christianisme, de vouloir nous tirer de la polémique, d'une part en disant « nous avons le bon monothéisme parce que notre monothéisme est trinitaire et la Trinité sauve l'idée du Dieu unique ». Ceci n'est pas tout à fait vrai. C'est en tant que Dieu unique, si vous voulez, que Dieu, dans ses attributs, la justice, la bonté, doit être absolument exonéré de l'accusation d'être porteur de violence. Quand on dit parfois dans certaines accommodations liturgiques « Dieu tout-puissant », et alors on ajoute « Dieu tout-puissant d'amour » par peur d'accuser la toute-puissance, mais c'est un point de vue très anthropomorphique, car Dieu est tout-puissant, mais il n'est pas soupçonnable de la moindre injustice, sa toute-puissance est toujours bonne. Alors, bien sûr, en disant cela, il fallait s'expliquer avec ce que nous avons appelé dans l'introduction des pages difficiles de l'Ancien Testament sur une présentation d'un Dieu de colère, d'un Dieu de vindicte, pour ne pas dire de vengeance, c'est-à-dire d'un Dieu qui rétablit la justice avec des moyens un peu brutaux, etc. Donc, vous voyez, là, pour le coup, pas d'apologétique facile. Nous avons essayé d'argumenter, de montrer en rapport avec quelle préparation de l'humanité, elle-même saisie de violence, de guerre, de péché, cette diction, on pourrait dire cette expression narrative d'un Dieu non seulement fort, mais parfois violent, nous devons nous expliquer. Dans la suite des actes de repentance que le pape Jean-Paul II, au jubilé, avait vraiment publié, nous devions dire à quel point l'Église s'est en réalité séparée de la révélation d'un Dieu de douceur, de pardon, d'un Dieu qui respecte les consciences, qui ne les contraint jamais, et que ceci est une contradiction réelle, un péché des gens d'Église, un péché avec lequel nous ne devons avoir aucune espèce de complicité. Ce témoignage argumenté commence par une autocritique en remarquant comment l'Église a pu être infidèle au Dieu de douceur qu'elle était appelée à prêcher. Il est évident que nous laissons à ceux qui sont interrogés, voire attaqués par la même polémique, je veux dire la religion juive, Israël et l'islam, nous les laissons répondre à cette polémique qui, de fait, aujourd'hui, circule dans le monde entier. Nous laissons là encore libre les historiens de repérer les contradictions de telle religion avec son propre discours. Les historiens ne manquent pas de le faire pour l'Église du Christ, et ils peuvent le faire pour d'autres religions.
Le pape François a publié ce jeudi son message à l'occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations, un message intitulé « Les vocations, témoignage de la vérité ». Cette journée sera célébrée le 11 mai prochain. Dans ce texte, le souverain pontife revient sur la fécondité de la mission chrétienne et la fidélité à Dieu, essentielle au témoignage. Hélène Destombes.
Il faut d'abord labourer, semer et cultiver pour pouvoir ensuite, le moment venu, moissonner une récolte abondante, écrit le pape. Mais Dieu est celui qui permet que la moisson soit abondante. Le champ dont parle Jésus est l'humanité, c'est nous. Et l'action efficace qui est à l'origine du beaucoup de fruits est la grâce de Dieu, la communion avec lui. Nous sommes la propriété de Dieu, non pas au sens de la possession qui rend esclave, mais d'un lien fort qui nous humilie. Unis à Dieu et entre nous, selon un pacte d'alliance qui demeure pour l'éternité, poursuit le Saint-Père, en soulignant que Dieu rappelle qu'il veille continuellement sur chacun afin que sa parole se réalise en nous. Chaque vocation demande toujours un exode de soi-même pour centrer sa propre existence sur le Christ et sur son évangile, peut-on lire aussi dans ce message. Que ce soit dans la vie conjugale, dans la vie religieuse ou sacerdotale, il faut dépasser les manières de penser et d'agir qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur, poursuit François, Dieu ne nous abandonne jamais. La vie chrétienne signifie parfois aller à contre-courant et comporte de rencontrer également des obstacles en dehors de nous et en nous. Et la semence de la parole de Dieu est souvent volée par le malin, bloquée par les difficultés, étouffée par des préoccupations et des séductions mondaines. La véritable joie des appelés consiste à croire et à faire l'expérience que le Seigneur, lui, est fidèle. Fort de cette confiance, le pape invite ainsi à ouvrir notre cœur à de grands idéaux et demande en particulier que la pastorale des vocations soit orientée vers les jeunes.
Les scandales dans l'Église arrivent lorsqu'il n'existe pas de rapport vivant avec Dieu et sa parole. C'est en substance ce qu'a réaffirmé le pape ce jeudi au cours de son homélie célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe, commentant les lectures et les psaumes du jour qui racontent une cuisante défaite des Israélites vaincus par les Philistins. Le Saint-Père a fait remarquer que le peuple de Dieu à cette époque avait abandonné le Seigneur. « Avons-nous honte ?» a demandé le pape. « Il y a tellement de scandales dont je voudrais parler un par un, mais tous nous les connaissons, nous savons où ils sont. » Des scandales dont certains ont coûté beaucoup d'argent, a-t-il martelé, et la parole de Dieu dans ces scandales était rare. Une homélie sévère et forte à retrouver en détail sur notre site internet www.radiovaticana.va. Les relations entre catholiques et juifs étaient à l'honneur ce jeudi au Vatican, lors de cette 18e journée pour l'approfondissement et le développement du dialogue entre catholiques et juifs. Le pape a en effet reçu à la Maison Sainte-Marthe un groupe de rabbins venus d'Argentine, son pays natal. Autre temps fort de la journée, le rabbin argentin Abraham Scorca, un ami proche de François, a tenu une conférence publique à l'Université pontificale grégorienne sur le thème du dialogue judéo-catholique, 50 ans après la déclaration Nostra Aetate. Le rabbin Abraham Scorca, recteur du séminaire rabbinique latino-américain de Buenos Aires, est aussi le co-auteur d'un livre avec le pape François, un livre intitulé « Sur la terre comme au ciel », fruit de rencontres spirituelles sur les thèmes fondamentaux de la vie humaine et de la possibilité d'une éthique partagée. Avant de refermer ce magazine, sachez qu'en France, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, a décidé de maintenir l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert. Ce patient âgé de 38 ans, tétraplégique et en état de conscience minimale, est hospitalisé depuis 5 ans après un grave accident de moto en 2008. « On a sauvé la vie de Vincent, c'est une victoire du droit, c'est une victoire pour tous les handicapés », a estimé l'un des avocats des parents de Vincent Lambert, qui s'était prononcé pour le maintien en vie de leur fils. Le tribunal administratif a notamment jugé que la poursuite du traitement n'était ni inutile ni disproportionnée et n'avait pas pour objectif le seul maintien artificiel de la vie. Il a donc suspendu la décision d'interrompre le traitement, une décision qui contredit le corps médical, mais aussi la volonté de la femme du patient qui s'était prononcée en faveur d'une euthanasie passive. Certains membres de la famille de Vincent Lambert ont d'ailleurs décidé de faire appel de la décision du tribunal devant le Conseil d'État. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.